Jusqu'à la fin de sa vie, Freud se posera sa question du père, de ce qui sépare l'image du père donateur du livre sacré de l'image du père qui ramasse humblement le chapeau tombé à terre. Il ne suffit pas d'avoir dû douter trop tôt pour avoir du génie, mais si le génie n'est pas une condition indispensable pour être analyste, sont à l'inverse deux conditions nécessaires, cette allergie à l'illusoire et l'investissement d'une quête de vérité sur soi-même qui ne peut se satisfaire uniquement dans l'image de l'aimé, du bon père, du bon fils, du bon élève, du bon analysant que le jeu des autres peut vous renvoyer. Quelle que soit, et elle est grande, l'importance affective propre à ces images, un certain nombre de sujets éprouveront la nécessité de s'interroger sur la représentation que le jeu, dans sa solitude, se renvoie de lui-même, sur la représentation qu'il se donne de ce qu'est un homme, de ce qui est cause de cette réalité humaine dont les sujets se pensent tour à tour maître ou victime. J'aurais bien aimé écrire cette chose-là, mais ça n'est pas moi, c'est Peyrat Ollagnier. On trouve donc les analystes dans la catégorie de ces spécialistes de la solitude, au cœur de toute expérience relationnelle comme de toute connaissance. Avec l'idée que cette solitude-là constitue le lieu même de la pensée, d'une quête de vérité sur soi-même, de la recherche d'une autoconnaissance originelle, qui à la fois conditionne toute connaissance et désigne l'inconnaissable. J'envisagerai donc la métapsychologie de Peyrat Ollagnier en tant qu'elle postule un lien indissociable entre théorie de la pensée et théorie de la cure, avec comme visée de montrer que le droit au secret, comme condition pour pouvoir penser, vous reconnaissez, que ce droit au secret ne se réduit pas à l'espace analytique. La cure viendrait révéler ce qu'il en est de la pensée. Pas seulement la dimension secrète de l'activité de pensée, ou la question des secrets à penser, et à refouler bien sûr, et à dénier, etc., etc. Mais la pensée, ou plutôt il faudrait dire le penser comme lieu du secret de fabrication de la psyché. Mon propos sera donc très limité. Je resterai centré sur trois textes, avec au premier plan, bien sûr, le droit au secret, condition pour pouvoir penser, 1976, et dans un relatif second plan, le désir de savoir dans ses rapports à la transgression, c'est un des premiers textes, 1967, et puis les destins du plaisir, 1979. Avec un fil précis que j'ai voulu présenter le plus simplement possible et en l'épurant tout au long de nos journées, j'ai réécrit un peu chaque fois, chaque jour, et en l'épurant tout au long de nos journées pour éviter de répéter ce qui a déjà été dit. Donc, non pas la théorie de la pensée proposée par Ollagnier, ce qui supposerait en fait d'aborder toute l'œuvre et l'ensemble de ses concepts, mais beaucoup plus modestement, cette perspective du penser comme lieu du secret. Avec le projet de rendre partageable, comme je le disais hier, comme la formule m'en est venue hier, de rendre partageable l'idée que nous avons tous, en tant qu'analystes, à nous, rendre Freud traductible, ensemble et séparément, ce que Peyrat Ollagnier fait donc au plus haut niveau. Nous rendre Freud traductible, et donc, je crois, partiellement reformulable et à prolonger, nous rendre Freud traductible, c'est-à-dire littéralement nous former avec et à partir de Freud. Nous rendre Freud traductible et essayer d'en dire quelque chose, cette fois-ci donc avec Peyrat Ollagnier. Ferenczi, Winnicott, Salzmann, Ollagnier, mais aussi l'écriture du psychanalyste. À chaque fois, dans ces colloques dont j'ai été à l'initiative ces dernières années, j'ai proposé à des collègues de co-organiser une prise de risque. Ça m'est venu ce matin. De co-organiser, j'espère que vous savourez, chers collègues, une prise de risque. le risque de rendre pensable, seul au pluriel, seul avec un S, seul au pluriel et avec d'autres, quelque chose de notre formation, au-delà des logiques d'appartenance, mais en assumant autant que possible la singularité de nos filiations théoriques et institutionnelles, lesquelles, en dernière instance, on le sait, sont déterminées, voire constituées par les transferts à l'œuvre dans nos parcours. Alors, un détour préalable, les commencements de la psychanalyse. Après Freud, il appartient aux psychanalystes d'avoir à reconnaître, dans l'inconfort, que toute théorisation est travaillée par une auto-théorisation, elle-même par nature défaillante, pour nécessaire qu'elle soit. Sans doute même pourrait-on dire qu'il n'y a pour nous de connaissance qu'à consentir à cette reconnaissance, qu'il n'y a pour nous de créativité que dans la confrontation à cette défaillance. La défaillance renvoie à une donne structurelle. Le travail de pensée de l'analyste, dans et hors la situation analytique, est animé par l'élaboration ou la perlaboration, du contre-transfert, une élaboration creusée par son transfert. Un transfert dont le cœur est un inanalysé en attente d'analyse, activé singulièrement avec chaque patient, mais toujours en rapport avec les destins en l'analyste de l'inanalysé de ses propres analystes. Un meurtre de la pensée aurait pu ou pourrait avoir lieu. Je repense à l'annonce de temps que Pierrette avait introduit du temps grammatical. Un meurtre de la pensée aurait pu ou pourrait avoir lieu, mais il appartient à l'analyste de se le rendre suffisamment pensable jusqu'à contacter la dimension potentiellement meurtrière de la pensée. Au sens où penser suppose de perdre et de prendre le risque de se perdre, c'est-à-dire, dans la langue de Lanier, de séparer le pensant et le pensé, l'identifiant et l'identifié. Son transfert, confrontissé analyste, en deçà de la création et même de l'acte créateur de Freud, à la tentation d'imiter la transgression freudienne ou de réduire Freud soit à un analysant éternellement à interpréter, soit à un analyste modèle indépassable. Une tentation transgressive qui est aussi bien celle d'oublier son œuvre, l'œuvre de Freud, d'oublier la fonction analytique de son œuvre, pour lui, pour Freud et pour nous, ou d'oublier que cette œuvre est incomplète. Il y a au commencement de la psychanalyse la mise en acte d'un fantasme d'auto-engendrement, une transgression des limites du connaissable, dans la tentation de croire en la possibilité d'une autoconnaissance sans limite, qui a pris la forme d'une autoprésentation supposée définitive. Je pense ici au texte présentant la genèse de la psychanalyse, comme le bien nommé autoprésentation, mais aussi au geste général de l'autoprésentation dans l'écriture de Freud, même si elle prend des formes très, très différentes, très variables. Et cette transgression aux origines de la psychanalyse me semble produire, au sens restreint du terme, me semble produire une scène originaire partagée par tous les analystes. Freud ne peut, comme fondateur et créateur, que faire acte de transgression en occupant pour lui-même la place de l'analyste qu'il ne pouvait ni avoir, ni être. Et les analystes ont à affronter la transgression freudienne pour la penser, c'est-à-dire pour élaborer, au mieux et sans fin, les croisements de leur expérience d'analysant et de leur expérience d'analyste. Se laisser en position d'analyste, travailler par ses propres passés d'analysant, permet de ne pas céder à la tentation de se faire soit l'éternel analyste, soit l'éternel analysant de Freud. C'est-à-dire de ne pas céder à la tentation de se mettre imaginairement soit à la place de l'analyste de son analyste, soit à la place de son analyste comme analysant. C'est ici qu'intervient la relation Freud-Ferenczi. Dans le recommencement originel de la psychanalyse, Freud, en tant que fondateur voulant rester le propriétaire de son œuvre, afin d'en garantir sa transmissibilité, est condamné à faire de lui-même un analyste inanalysable, sans autre analyste que le processus créateur de la psychanalyse. Et face à Freud, Ferenczi est condamné à faire de lui-même l'analysant inanalysable d'un analyste sans analyste. Ferenczi comme analysant inanalysable, pour lequel le renouvellement de la métapsychologie correspond à l'effort désespéré de fabriquer un analyste pour Freud, dans l'espoir de bénéficier enfin de Freud comme analyste analysé et analysable. Pris, au sens fort du terme, pris dans leur relation, chacun des deux proteste ainsi contre l'inconnaissable du transfert, soit aussi l'expérience de l'inconnaissable dans le transfert. Mais là où les commencements sans fin de la psychanalyse auront toujours déjà séparé Freud de Ferenczi, le recommencement ferenczien de la psychanalyse enfermera toujours plus Ferenczi dans une séparation impossible. Les psychanalystes ont à hériter du dialogue interne de Freud et du dialogue entre Freud et Ferenczi, qui n'a pas réussi à trouver son espace intermédiaire. Hériter en œuvrant à partir du questionnement sur son propre fonctionnement psychique, tel qu'il est appelé par les patients. Un questionnement qui met l'analyste en contact avec l'inconnaissable de ses origines, c'est-à-dire des origines de son désir et de son penser, de sa conception et de sa formation. Inconnaissable, qu'il est de sa responsabilité néanmoins de mettre au travail. Donc justement, l'inconnaissable. Pierre Aulagnier a proposé une formulation assez définitive du désir de savoir dans son rapport à la transgression, au sens étymologique de la traversée, du passage de l'autre côté. Je cite. Le désir du savoir butera sur sa propre structure qui veut que le sujet ne puisse se soutenir en sa place de désirant, désirant du savoir, que par une transgression continuelle du su à la recherche d'un non-su jamais épuisable. Forme dernière que prendra pour lui le défilé de la castration, dernier appel du deuil qu'il a à faire de la toute-puissance d'un désir qui veut pouvoir toujours nommer l'objet-cause de son surgissement. La perspective est pleinement freudienne, prolongeant la voie ouverte en 1905 dans les trois essais sur la théorie sexuelle. Premièrement, l'objet de la connaissance est le sexuel dans et hors la sexualité. Deuxièmement, la connaissance est par nature sexuelle dans ses sources auto-érotiques. Cela permet d'envisager l'inconnaissable comme étant doublement au cœur de la connaissance. L'inconnaissable de sa conception et de sa fabrication psychique expose le sujet à une exclusion originelle dont est supposé témoigner par défaut, à vie, l'activité fantasmatique supportant la scène originaire. J'ai réécrit un peu ça en ayant en mémoire les échanges autour de l'originaire, la scène originaire, et tous les malentendus que ça suscite. Et l'inconnaissable, lié à sa structuration psychique, sous le régime de la castration et du manque, l'expose à la dépendance originelle de l'infance. La dépendance vitale de l'infance se situe indissociablement au plan de l'autoconservation et de l'auto-érotisme. L'auto-érotisme est conditionné par un plaisir de fonctionnement impliquant l'expérience d'avoir été source de gratification sexuelle et narcissique pour l'autre primordial dans la satisfaction de ses besoins vitaux. Vous reconnaîtrez l'enfant mal accueilli. Les sources de ce plaisir de fonctionnement, au fondement du sens de la vie dans la perspective féringienne, sont inconnaissables. Comme le sont dans la perspective winnicottienne, les sources de la continuité du sentiment d'exister, du self comme garant de l'auto-érotisme créateur. Sur les sources auto-érotiques, je fais un petit aparté. Sur la connaissance par nature sexuelle. Comment ne pas penser ici à l'injonction paradoxale caractérisant dans la Genèse l'énonciation de la première loi, qui dans sa formulation même associe l'interdit et l'anticipation de sa transgression, avec la mention de la sanction annoncée. De tout arbre du jardin tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car du jour où tu en mangeras, tu mourras. Et manger la connaissance, comme agir confondant manger et connaître, annonce dans la perspective du texte biblique le primat du regard, amené par la parole séductrice et manipulatrice, sous cet angle on pourrait dire perverse, au sens large du terme, du serpent, qui suscite la transgression et la connaissance. Ils connurent qu'ils étaient nus. Avec donc l'usage du verbe hébreu ladad, dont je parlais l'autre fois, qui désigne toujours dans le texte biblique à la fois la connaissance comme acte et l'acte sexuel. L'apport métapsychologique de la théoricienne de la violence fondamentale s'avère incontournable pour approcher ce versant de l'inconnaissable au cœur de la connaissance. Sous l'angle donc du plaisir originel de la psyché, s'éprouvant elle-même dans l'investissement par l'autre, primordial. La fonction de porte-parole de la psyché maternelle engage une représentation idéique, dépositaire et garante d'une connaissance de l'être du sujet en cours de construction, qui identifie l'infance et à laquelle il lui est offert, disons, de s'identifier. Cette connaissance est inconnaissable pour le sujet. Elle désigne l'inconnaissable comme atopique, un lieu sans lieu, un lieu sans autre délimitation que négative, un lieu interdit. Interdit d'accès pour les mots à venir de l'infance, mais destiné à s'énoncer dans le silence entre les mots et à l'intérieur de chaque mot. Un silence qui tient les mots ensemble en les séparant et en même temps un silence qui les relie. Pour Aulagnier, l'inconnaissable renvoie au processus qui constitue l'infance dans l'assignation identificatoire et identifiante de la psyché maternelle. C'est la violence primaire et son pouvoir anticipateur. En d'autres termes, l'inconnaissable procède du refoulement propre à l'activité de la psyché maternelle dans son investissement sexuel et narcissique de l'infance. Il détermine la teneur des sentiments. Terme qui n'a jamais été utilisé encore. Hein, c'est bon. Qui ont pour fonction à la fois la nomination des affects et, je cite, « l'interprétation qui relie un éprouvé en soi inconnaissable à une cause supposée conforme à ce qu'on éprouve ». Fin de la citation. L'inconnaissable au cœur de la connaissance renvoie à la fois à l'originaire et à l'origine de la connaissance, c'est-à-dire au fondement du « je » comme sujet du connaître, dans un double arrimage du désir de savoir. Ce double arrimage marque l'assomption du sujet parlant. Il pourrait être circonscrit d'une part à la scène originaire, avec laquelle le sujet fabrique inconsciemment son destin tout au long de la vie, en se faisant plus ou moins le sujet de ses fantasmes, et d'autre part, à l'interprétation originelle par la psyché maternelle, dont les destins inconscients déterminent la manière dont le sujet se fait, tout au long de sa vie, le sujet de sa pensée. De la scène originaire à l'interprétation originelle, peut-être il faudrait dire l'inverse d'ailleurs, sûrement, il y a peut-être l'enjeu que Freud semblait évoquer dans l'abrégé, la confiance du tout petit dans le retour de la mère au-delà de l'espoir. Littéralement, confiance au-delà, qui serait à considérer comme la condition du désir de savoir. Il y a en tous les cas l'énigme du façonnage du sujet humain par la psyché de l'autre, qui inclut un écart entre l'inscription première de l'expérience et sa représentation. Je prends un malin plaisir qui me caractérise un peu, c'est toujours de dire les choses un petit peu comme les autres ne le disent pas. Parce que là, ça, on reprend des choses qui ont été dites. Un écart renvoyant à la composition de la psyché de l'infance par l'investissement de l'activité refoulante de la pensée maternelle, laquelle inscrit un au-delà, posant le sens comme n'étant pas un objet de savoir. Autrement dit, voir et se voir suppose d'avoir été regardé et d'avoir perdu ce regard originel, un regard perdu, mais néanmoins potentiellement présent, à retrouver dans l'au-delà des actualités du regard d'autrui. L'inconnaissable, donc, dans cette perspective d'Aulagnier, correspond à une double perte irréductible, la mère et la psyché maternelle. La mère est appelée ailleurs par son désir, un ailleurs qui inscrit en l'infance la marque de l'au-delà, une marque qui ouvrira la dimension de l'altérité interne de l'autre comme annonciatrice du déploiement de la triangulation oedipienne, comme on disait à un certain temps l'autre de l'autre. Et la psyché maternelle, comme lieu d'interprétation désirante, est à investir fantasmatiquement comme source inaccessible et désirable du désir. Cette double perte, irréductiblement énigmatique, constitue la source du désir de savoir au titre, je cite sa formule, au titre du désir d'un savoir sur le désir. Ici aussi, la perte est supposée, sauf empêchement pathologique, pré-inscrire l'interdit. L'interdit d'un savoir sur son désir de savoir et d'un savoir sur le désir de l'autre. Connaître suppose d'accepter la séparation du savoir et de la jouissance. La jouissance procédant de l'assimilation sans limite du savoir et du plaisir. Là encore, la Genèse. Il s'agit in fine d'accepter l'écart constitutif de la représentation et du représenté, de l'identifiant et de l'identifié, de l'expérience et du représentable. Telle est la condition de l'accès au « je » en ce qui consacre le sujet comme sujet de ses fantasmes et de ses pensées. Sujet de son pensée, y advenir suppose de penser avec plaisir et de penser sans plaisir. C'est à peu près une formulation de Pierre. Maintenant, le mensonge. Pour accéder à la non-propriété de ses pensées, pour prendre plaisir à être pensé par ses pensées, pour prendre plaisir à être identifiable par ses pensées tout en renonçant à s'identifier à ses pensées, pour devenir le sujet de son pensée et de sa parole, il faut du temps, et il y a une condition préalable. Il aura fallu que l'infance fasse suffisamment l'expérience d'une jonction entre la parole portée par l'interprétation de la psyché maternelle et ce qui a lieu en lui. C'est la qualité de cette jonction qui va rendre possible les premières représentations, informations de plaisir et de souffrance, ce que Pierre Aulagnier nomme donc les pictogrammes de jonction et de rejet. Et c'est encore elle qui va déterminer ensuite l'expérience soutenant le plein déploiement du jeu, qui suppose précisément la possibilité d'un écart entre parole et pensée. Cette expérience, on le sait, c'est le mensonge, mais Aulagnier en fait une donne métapsychologique. Plusieurs éléments sont ici à souligner. Le premier. Le chemin de l'infance suffisamment interprété par la psyché parlante de la mère jusqu'à l'enfant en capacité de mentir passe d'abord par l'expérience du mensonge parental, c'est-à-dire par la découverte, je cite sa formule, par la découverte du mensonge présent dans la réponse parentale à sa question sur l'origine. Deuxième élément. Si l'enfant découvre avec l'expérience de mentir les limites de la toute-puissance parentale et commence à se libérer du besoin d'y croire, il découvre en même temps que le pouvoir de la parole, la puissance d'incertitude du langage. Je cite, se découvrir capable de mentir. Découvrir que l'autre peut croire un énoncé mensonger porte son premier coup et aussi le plus décisif à la croyance en la toute-puissance parentale. Nous avons démontré ailleurs que la découverte que le discours peut dire le vrai ou le faux est pour l'enfant aussi essentielle que la découverte de la différence des sexes, de la mortalité ou des limites du pouvoir du désir. C'est elle qui lui impose de reconnaître que la parole la plus aimée, la plus valorisée, voire celle reçue avec le plus grand plaisir, peut se révéler mensonge. Reconnaissance qui le laisse à jamais meurtri face au langage dont il a pourtant appris qu'il est seul à pouvoir lui assurer que séparation ne veut pas dire isolement. Et qu'au moins dans le registre de la voix et de l'écoute, une alliance est possible, une réunion peut se faire. Troisième élément, troisième point. Avec le mensonge, l'enfant découvre à la fois que le pouvoir des mots lui échappe et que les mots lui donnent le pouvoir de limiter, je cite sa formulation, de limiter la force d'effraction du désir maternel. Alors même qu'il devient capable de mesurer l'état de dépendance dans lequel il reste. C'est parce qu'il se confronte à ses limites que, je cite, l'enfant réalise qu'il est pourtant en son pouvoir de créer des objets, des pensées, qu'il peut être seul à connaître et sur lesquels il réussit à nier à l'autre tout droit de regard. Ces trois points sont donc au fondement de la théorie de la pensée de Pierre Aulagnier. Penser, c'est, dit-elle, le pur plaisir de créer des pensées, indépendamment du surcroît de plaisir que peut apporter leur communication, indépendamment. Étant entendu que ce plaisir, reçu ou espéré en retour, suppose, je cite, que le penser puisse apporter la preuve qu'il n'est pas la simple répétition d'un déjà pensé depuis toujours. Fin de la citation. Et une épreuve aura été nécessaire pour arriver, découvrir, je cite, encore, découvrir qu'on a fait confiance à un discours, le sien ou celui d'un autre, qui mentait. À l'opposé de la création des pensées, ou de la pensée comme création de pensée, il y a l'état d'aliénation. Le contraire de l'indépendance d'esprit, comme l'a souligné Nathalie Salzman. Elle en a proposé une démarche, d'ailleurs, dans la ligne de son concept de pulsion anarchiste. Elle, je parle de Nathalie, en soulignant la conjonction Eros-Thanatos et la concentration sur un objet exclusif choisi par Thanatos. Mais voilà donc la définition de Pierre Aulagnier. Je cite. « L'aliénation concrétise une tentation qui a été et reste présente dans l'activité de pensée de tout jeu. Retrouver la certitude, exclure et le doute et le conflit. » Et elle précise sa définition en insistant, je cite, « sur la rencontre avec un autre sujet désirant aliéné. » Je cite, « l'aliénation de l'autre est la réalisation d'un désir de mise à mort de la pensée que l'on retrouve présent chez les deux sujets. » Avec une telle définition, on comprend que la libération de l'aliénation soit posée comme la visée première de la cure. Et on comprend aussi que le détournement d'analyse constitue l'une des principales figures de l'aliénation que Pierre Aulagnier étudie avec la drogue, le jeu et l'amour passionnel. Ne penser que ce qui a été déjà pensé par l'analyste serait le comble de l'aliénation dans une cure, le comble de la négation de la cure comme expérience relationnelle dans la création des pensées, comme expérience relationnelle de la parole en tant qu'elle exige la présence d'une voix et d'une écoute. Au passage, on pourrait relever combien Aulagnier se situe ici dans le prolongement du Ferenczi, un autre Ferenczi, donc celui de la confusion des langues. Je sais que tu diras que c'est le même, mais bon. Le processus analytique requiert la capacité chez le patient et chez l'analyste, de, je cite, « prendre le risque de découvrir des pensées qui pourraient mettre en cause leurs connaissances les plus assurées. La possibilité même de l'interprétation suppose que la jonction parole-pensée ait été pour l'analyste source de plaisir, ait été et demeure. Dans la mesure où l'interprétation est définie, par elle, comme une nouvelle jonction entre la parole de l'analyste, une nouvelle jonction entre la parole de l'analyste et une pensée du patient. Une nouvelle jonction qui, dit-elle, surgit toujours en un moment de surinvestissement de la relation par les deux partenaires. Encore faut-il ajouter que cette nouvelle jonction repose sur la continuité intérieure de l'activité de pensée de l'analyste, sur les flux et reflux incessants de l'écoute de ses associations, une écoute de son écoute qui lui permet de relier tous les sillons de sa mémoire inconsciente et des fragments de théorisation. Cette autoconnaissance en mouvement, que je nomme dans mon propre vocabulaire l'interlocution interne, Aulagnier la désigne par le terme de théorisation flottante. Il s'agit en tous les cas d'isoler une dimension fondamentale du penser d'analyste en séance qui lui assure suffisamment la possibilité de jouer avec ce que j'appellerais ses attaches transférentielles vis-à-vis des analystes et des théories ayant contribué à sa formation qui, comme on sait, est continue. La question du secret. L'idée d'une mélancolie du langage avancée par Pontalis, offre ici une perspective précieuse, malgré un possible malentendu. Dans la perspective de Pontalis, le langage est accusé par le sujet, par tout sujet quand tout se passe à peu près bien, le langage est accusé de contraindre à la perte et donc au deuil. Mais l'accusation elle-même viserait chez le sujet parlant à ne pas perdre l'avant absolu de la chose sans nom, je cite à peu près. Soit, dans la terminologie de Pierre Aulagnier, la nomination désirante des affects de l'infance par la psyché maternelle. L'avant inaccessible, ce n'est pas, ou pas directement, la scène originaire comme scène matricielle de la fantasmatique oedipienne, mais ce qui la conditionne dans les premiers temps de la vie, c'est-à-dire cette nomination première, soit une expérience originelle, mise au secret dans la construction même de la psyché de l'infance. Le secret est ainsi activé par le fonctionnement psychique de l'infance, puis de l'enfant et du sujet tout au long de sa vie, en deçà de toute représentation de mots et de choses, en deçà mais à l'intérieur. Ce secret constitue la matière première de ce que Victor Smirnov a appelé la secrétude. Le terme désigne le cœur irréductiblement secret de la constitution du sexuel infantile, électivement au travail dans tout discours prenant pour objet le sujet de l'énonciation, c'est-à-dire le cœur du transfert dans toute cure. Bon, j'y reviendrai un petit peu. Sans doute, les destinées du secret de la composition originelle de la psyché dans et par les investissements du premier autre, sans doute qu'elles s'avèrent variables selon les différentes figures de la psychopathologie. C'est probablement avec l'hystérie que s'affirme la plus grande proximité avec ce secret. Dans l'érotisation de son ignorance, principal vecteur de la relation aux autres, une ignorance chez l'hystérique, supposée attestée de la vérité dernière, à savoir que nul n'est censé savoir ce qu'il cache, ni ce qu'il se cache. À l'opposé, en simplifiant beaucoup, à l'opposé, la mélancolie se définirait par la croyance en la transparence du discours. Une croyance supposée attestée d'une autre version de la vérité dernière, à savoir que rien n'est caché, ni ne se peut cacher, en soi comme hors soi. Et entre les deux, le registre limite se caractériserait par la menace mélancoliforme générée par la contrainte à se cacher. La catastrophe de ne pas être trouvé, Winnicott, c'est-à-dire de se perdre dans la disparition de l'autre, catastrophe ayant déjà eu lieu, le sujet ne peut y survivre qu'en protestant contre la perte constitutive du langage, qui s'est traduit dans ces cas dits limites en termes de menace, d'une menace de perdre le langage ou de se perdre dans le langage. La diversité de ces destinées, très schématiquement présentées bien sûr, vient questionner l'amour de la vérité chez l'analyste, tel que Freud en a fait une condition absolue de l'aptitude à devenir analyste et à le rester. Dans l'analyse infinie, dans l'analyse finie et l'analyse infinie dans le bon ordre, il va jusqu'à définir l'amour de la vérité comme l'opposé d'un détournement, c'est son terme. C'est-à-dire comme l'opposé d'une manœuvre défensive de l'analyste contre l'analyse personnelle. Contre l'analyse personnelle comme expérience de perte de soi, au sens d'une transformation indissociablement intérieure et relationnelle. Or, l'analyse comme perte de soi, c'est bien là où le registre limite viendrait questionner spécifiquement l'analyste. Les cas difficiles dont parle Fédida se présente comme étant non pas condamné à investir, selon la formule de Lanier, mais plutôt condamné à s'investir comme infants insuffisamment investi. Il revendique au titre d'une exigence pour eux vitale le non-renoncement à la confusion de l'objet et du sujet, de l'énoncé et de l'énonciation, de la parole et de la pensée, c'est-à-dire, dans les termes de Lanier, encore une fois, du représenté et du représentant, de l'identifiant et de l'identifié. Ces patients font vœu de transparence à l'endroit même où la parole révèle ce qu'elle se cache, c'est-à-dire ses sources dans l'introjection des investissements narcissiques et objectaux par une psyché parlante, celle de l'autre des temps premiers de la dépendance vitale. L'autre, c'est-à-dire dans l'expérience de l'infance, une présence désirante et inconnaissable qui va frayer le passage pour quelqu'un à venir. Revendiquant de n'avoir pas pu inconsciemment, hein, bien sûr, hein, revendiquant de n'avoir pu suffisamment bénéficier de cette expérience, ces patients se veulent l'incarnation d'une protestation impitoyable contre la règle fondamentale, au lieu même de leur défaite comme sujet, dans la fidélité à leur incorporation ancienne d'une défection de l'autre. C'est-à-dire, pour prendre un vocabulaire à mi-chemin entre Freud et Ferenczi, d'une défection de l'autre secourable qu'autrui sera chargé de réincarner. Comment taire, si vous me permettez le jeu de mots. Dans la clinique des limites, le dire du patient est effectivement réduit à un auto-commentaire, reposant sur un supposé savoir qui doit être intégralement acquis. Il ne s'agit plus de l'effort de dire tout ce qui vient, mais de dire tout, pour occuper le silence de l'écoute, pour habiter en l'analyste comme chez soi, mais en l'obligeant à s'absenter jusqu'à l'auto-effacement. À l'effort de laisser venir ce qui attend d'être dit, vient s'opposer la morale totalitaire d'un dire prétendant coïncider avec le dit. Cette morale individuelle proclame la transparence à soi-même du même geste qu'elle désavoue l'amour, comble de la non-visibilité. Cette morale est en syntonie, étrangement ou pas, je ne sais pas, avec l'injonction de la transparence dans la culture contemporaine, qui a redoublé encore avec la période Covid. Une injonction qui constitue une véritable machine de guerre contre le secret intrinsèque au transfert. Sa cible est exactement la secrétude de Jean Smirnoff, je le formule autrement, c'est-à-dire la dimension du secret, là je cite Smirnoff, la dimension du secret inhérente à tout discours que le sujet tient sur lui-même. L'enjeu consiste à se défaire du secret des origines dont les mots sont potentiellement porteurs, à leur insu et en deçà de toute possibilité de représentation de mots et de choses. Encore une fois, en deçà et à l'intérieur, hein, bien sûr. Il s'agit de se défaire de l'énigme des origines du désir, de ses capacités à être excitées par le désir de l'autre, des exigences pulsionnelles, des identifications, de la pensée. Et par là même, il s'agit pour ces patients de récuser le transfert, impensable, en tant qu'il ouvre la possibilité d'une expérience extraordinaire, l'attente croyante d'une présence à côté, susceptible de défaire l'infidélité à l'infance destinée à s'installer dans le désert, laissé par la disparition du premier autre à lui-même. Un désert plus ou moins complet, des représentations et des affects confondus. La disparition avait contraint l'infance à incorporer le vide qui creusait les investissements libidinaux par l'autre premier autour de la satisfaction de ses besoins vitaux, ce qui va fausser plus ou moins définitivement la constitution auto-érotique de l'infance, à envisager comme auto-investigation et auto-représentation du corps, mais du corps investi dans les investissements de l'autre au fondement du penser. C'est en cela que l'expérience extraordinaire du transfert s'avère extraordinairement menaçante pour ces patients, en promettant ce qui n'avait pas été donné à l'infance, c'est-à-dire en obligeant paradoxalement à renoncer au renoncement d'être, à renoncer à la vengeance de l'automutilation mélancolique ou sans doute plutôt mélancoliforme. En lieu et place de la conviction survivante d'être sans aide, ni interne ni externe, surgit l'offre inédite d'un penser entre, d'un espace psychique n'appartenant ni à l'un ni à l'autre, reposant à la fois sur la dissymétrie et la mutualité des investissements. Comme si la répétition pouvait sécréter de la représentation, comme si l'attribution transférentielle d'un pouvoir, pourtant dans ce registre supposé abusivement défaillant, pouvait quand même ouvrir sur un désir de penser. Le patient d'illimite est ici confronté littéralement à ses limites, pour le meilleur, quand ça se passe suffisamment bien. Ses limites, c'est-à-dire la délimitation solipsiste de son espace psychique, est menacée ici par l'expérience impensable d'une co-construction qui supposerait que l'analyste et l'analysant se changent mutuellement. La condition première de cette mutualité repose sur la capacité de l'analyste à se laisser changer par l'analysant. Mais l'analyste est dans le registre limite précisément supposé pour le patient incarner la défection de l'autre. Là où les patients névrosés se contentent de solliciter et de douter de la capacité de l'analyste à ne pas abuser du pouvoir qu'il lui donne. Ça, c'est Nathalie. Hein. C'est-à-dire de la position du sujet supposé savoir. Les patients d'illimite se vouent à littéralement mettre au secret dans la cure le besoin vital de l'infance d'être compris, c'est-à-dire pour Relanier, d'être interprété. Besoin d'être compris qui convoquerait pour eux l'impensable désir de se faire comprendre. Pour être dans le désir de se faire comprendre, il faut avoir été préalablement investi, c'est-à-dire avoir fait l'expérience, je répète encore la formulation de Ferenczi, avoir fait l'expérience d'être gratifiant libidinalement à travers la satisfaction de ses besoins vitaux et le surcroît qu'elle offre, c'est-à-dire le plaisir sexuel dont parle Ferenczi. De cette expérience, la reconnaissance de la voix de la mère vient normalement témoigner, en tant qu'elle fait éprouver à l'infance qu'il est investi, c'est-à-dire capable d'être investi, et qu'elle lui en donne par là une preuve sensorielle, la voix. Là, je citerai Green, une formulation très forte de Green. Il y a destination avant qu'il y ait un destinataire. Le contact avec la voix du premier autre traduit ce dont tous les psychanalystes travaillant dans le champ de la périnatalité rendent compte, dans une perspective winnicottienne, explicitée ou non, non seulement l'objet est investi avant d'être perçu, mais l'hallucination précède et conditionne la perception. C'est-à-dire, pour se rapprocher un peu de la manière de penser de Pierre Aulagnier, c'est-à-dire qu'il n'y a de perception que portée par l'expérience d'être investi. Pour conclure, si le désir de savoir est au fondement de toute cure, c'est que la cure et la création à deux d'un travail de pensée qui active très spécifiquement la dépendance réciproque, propre à toute relation. Création à deux, pour analyser et pour l'analyste, ensemble et séparément, sur deux scènes distinctes, de pensées qui sont source de plaisir, parce que inédites. Et si le désir de savoir est aux origines de la psychanalyse, Cela tient qu'en son principe même et au cœur du processus créateur œuvre une dualité, au double sens d'une dualité créatrice et d'un duel susceptible d'en venir au meurtre. Ce duel, en devenant visible dans sa potentialité meurtrière avec la relation analytique, c'est précis, hein, avec la relation analytique impossible de Freud et de Ferenczi, tout n'était pas impossible entre eux, mais la relation analytique était impossible. Ce duel révèle la transgression à l'œuvre dans la fondation de la psychanalyse, tout autant que dans l'autoconnaissance conditionnant le travail de pensée de l'analyste en situation. Peut-être pourrait-on dire qu'il est revenu à Pierre Aulagnier d'avoir prolongé et renouvelé l'œuvre freudienne en donnant un statut métapsychologique à cette transgression, c'est-à-dire en proposant une théorie psychanalytique inédite du penser comme expérience de la solitude à la fois relationnelle et transgressive. Je vous remercie.